On va tourner tout de suite dans 1 Samuel 30, si vous voulez bien. Et on va commencer avec juste les quatre premiers versets. 1 Samuel 30. Et j'entends encore des pages qui se tournent. Donc c'est rare aujourd'hui, hein, parce que normalement on lit sur le téléphone. Hein, mais 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Ziklag, il avait été parti à la guerre et il revient, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion sur le Negev et contre Ziklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville. Quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Vous vivez peut-être aussi des situations à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisé. Sylvain a dit qu'il est dans la joie ce matin, mais il a aussi admis qu'il y a des moments où ce n'est pas le cas, même s'il y revient vite. Et je pense que dans nos vies chrétiennes, il y a des moments comme ça, n'est-ce pas, que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que le Seigneur fait. Et nous arrivons à des situations à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisé. Je vais vous raconter une autre situation un petit peu similaire, mais beaucoup plus récente. Il y a quelques semaines, un certain Christophe, c'est un homonyme, hein, donc ne faites pas de confusion parce que je ne veux pas que vous me dénonciez à sa place. Hein, donc, doit renouveler son permis de conduire tous les 5 ans pour raison de santé. Il y a 5 ans, il a pris rendez-vous avec le médecin, puis il a amené les papiers à la mairie et il a reçu son nouveau permis dans les 3 semaines. Mais vous savez, depuis, l'administration a voulu simplifier les choses. La mairie locale n'a plus le droit de gérer ses demandes. Cela se fait sur Internet. Et en cas de difficulté, il y a des points numériques, des bureaux de poste sélectionnés avec un personnel formé à cela, pour cela. Donc Christophe complète son dossier sur Internet, sauf qu'il reçoit une réponse pour dire que l'un des documents est une feuille blanche. À l'écran, Christophe regarde le document et c'est le formulaire du médecin, bien complété et tout en couleur en plus. Donc il le renvoie une deuxième fois et à l'autre bout, ils se plaignent de ceux qui n'ont qu'une feuille blanche. Puis, en essayant de se reconnecter, le mot de passe ne marche plus. Donc Christophe se déplace à l'un de ses points numériques, à une 15aine de kilomètres de chez lui. Une fois, deux fois, après une 50aine de kilomètres et 4 heures de déplacement et d'attente plus loin, les points numériques sont pour ceux qui n'ont pas Internet. Mais quand ça ne marche pas chez soi, ça ne va pas marcher au point numérique non plus. Appel au service téléphonique. sans possibilité d'entrer en contact avec un être humain. Il y en a encore. Ça existe encore. Oui, 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 il y en a. Mais pour les avoir au téléphone, c'est pas simple. Christophe envoie un email. C'est fou le nombre de moyens qu'on a de communiquer aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est fou le nombre de moyens de communiquer qui ne marchent pas. Hein? Christophe reçoit un email en retour pour dire que aujourd'hui, c'est plus simple. Tout peut se faire sur Internet. Et de se joindre à son compte sur Internet. Autre email pour dire que ça ne marche pas. Retour pour dire, si ça ne marche pas, vous avez un service téléphonique. Mais, cette fois-ci, c'est précisé, pour aller plus vite. Une fois décroché à l'autre bout, vous tapez 2, 2 et 8. Ah, je me dis, ça y est, on va y arriver. Décroche. 2, 2, 8. 8 n'est pas une option valide. Une heure de jouer au loto sur mon écran téléphonique et je découvre que si on fait 2, 2, 5, 1, 2, on rentre en contact avec un vrai être humain. Il y en a qui prennent des notes. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il faut taper? Vous allez avoir des problèmes. Désespoir de cause, je dis. Je vais... Non, non, c'est pas moi. Hein, c'est Christophe. Christophe va à la sous-préfecture. Là, on va régler les choses. Mardi après-midi, je sonne. Sous-préfecture a changé de lieu, donc je ne suis jamais entré dedans, le nouvel sous-préfecture. Christophe n'est jamais entré dedans. Christophe sonne au portail, mais monsieur, la sous-préfecture est fermée le mardi après-midi. Et puis je vois à côté du portail une affiche pour dire « Les dossiers numériques ne sont plus traités à la sous-préfecture depuis le 7 juin. En cas de besoin, se déplacer à un point numérique. » Je retourne à la maison. Christophe retourne chez lui. Bouillonnant. Ça fait maintenant 7 semaines que ça dure. Christophe a un permis de conduire pour encore 2 jours. Christophe refait le numéro de téléphone et puis tape le 2. Mes amis, vous n'allez jamais vous en sortir. Hein? À la fin, Christophe est en train de dire ce serait pas une mauvaise idée de faire exploser la sous-préfecture. Hein? Les simplifications. Et puis Christophe se rend compte, avec un petit peu d'aide de sa femme, que c'est peut-être pas la meilleure solution quand même. Avec ces deux histoires, deux réactions différentes de Christophe et de David. Christophe perdit toutes ses forces en constatant une situation désespérante. Et dans le verset 6 de notre texte, si vous avez gardé la place, David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Verset 8, David interrogea l'Éternel en lui demandant, « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? » Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David se mit en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bessor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bessor, restèrent sur place. Quand rien ne va, quand rien ne marche, malgré le fait qu'on a persévéré, trois réactions possibles. La première, c'est d'abandonner. C'est la plus tentante, n'est-ce pas? Rien ne va plus, je laisse tomber. Quoi que je fasse, rien ne marche. Et c'est avec cette attitude-là qu'il y a eu déjà cette année, par exemple, 30 suicides de policiers et 4 suicides de gendarmes cette année. Mais parmi les 10 500 suicides en France chaque année. Parce qu'on a rencontré des problèmes dont on ne peut pas s'en sortir et on a dit, ça va, ça suffit, j'abandonne. Êtes-vous tenté d'abandonner dans un combat actuellement? La tentation est normale, mais y céder n'est pas la bonne solution. À ce moment-là, nous nous plaçons en victime. C'est la faute de l'autre. C'est pour le cas du permis de conduire. C'est l'administration, c'est la sous-préfecture, c'est le système informatique. C'est toujours la faute de l'autre. Et donc, nous sommes les victimes. C'est presque un soulagement, parce qu'on dit, je n'y suis pour rien. Je souffre en martyr. Les disciples avaient un peu cette tentation après la mort de Jésus, n'est-ce pas? On les rencontre sur le chemin d'Emmaüs, en train de se dire, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Et nous voyons Pierre qui, un peu lassé, retourne à la pêche aussi. Deuxième solution, c'est de faire la révolution. Vous avez déjà été tenté de faire la révolution? Ben oui. Et oui, parce que là, on peut vraiment s'exprimer comme il faut, n'est-ce pas? Ou comme il ne faut pas, plutôt. Et nous avons vécu ça en France récemment, n'est-ce pas, avec les gilets jaunes, des gens au bout du rouleau, et qui, lassés de tout ce qui ne marche pas, disent, bon, on va se lever et on va faire la révolution. Et donc c'était, je pense, quand on regarde au début des gilets jaunes, c'était une réaction tout à fait compréhensible et plutôt justifiée de dire, il faut changer les choses. Nous avons vécu, mais bon, nous avons vécu. Certains ont vécu aussi mai 68, une autre révolution aussi. Tout le monde qui dit ça ne va plus, il faut tout changer. Êtes-vous tenté de faire la révolution dans la situation qui ne va pas pour vous aujourd'hui? De tout bousculer, tout renverser. Manifestez votre frustration afin que les choses changent. Mais la révolution, c'est quand même plutôt une réaction humaine et charnelle. Et Jésus choisit une autre voie. Troisième solution, c'est de faire confiance à Dieu. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit les tentations, et le mot dans le grec c'est le même mot, tentation et l'épreuve. Les tentations qui vous ont assaillé, ou les épreuves qui vous ont assaillé, sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Petit rappel, Dieu est fidèle. Il sera fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tenté ou éprouvé au-delà de vos forces. Au moment de l'épreuve, de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Tenez bon. Ce qui me rappelle le 3e régiment de génie, ici à Charleville. Ardenne tient ferme. Ardenne tient ferme. Il est une chose de vouloir prouver qu'on peut réussir sans Dieu, mais il est tout autre chose de démontrer que grâce à Dieu, on peut faire face au pire des situations et tenir bon. Savoir compter sur lui, quoi qu'il arrive. Parce que nous savons qu'il ne nous laissera jamais tomber, n'est-ce pas? Il le promet. Est-ce que nous le savons vraiment? Même si l'administration le fait. Alors, comment faire pour prendre la bonne décision dans ces situations d'épreuve? Première chose, c'est d'admettre que nous voulons être maître de la situation. Nous voulons pouvoir dire, tout est sous contrôle, je gère. Mais Dieu n'a jamais prévu que ce soit nous qui gérions. C'est plutôt lui qui gère, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez fait la même découverte que moi, mais Dieu, il a une fâcheuse habitude de faire les choses autrement que ce que je lui propose. Malgré mon grand âge et ma grande expérience, Dieu trouve toujours un autre moyen que le mien. Donc il vaut mieux s'y habituer. Ce n'est pas moi qui gère, c'est Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Pourtant, nous voulons souvent prouver que nous pouvons nous en sortir tout seuls. Et ce n'est pas vrai. Quand nous nous mettons à la place de Dieu, il doit souvent nous briser pour que nous nous remettions à nouveau à la bonne place, en dépendance de Dieu. Quand nous regardons en arrière dans nos vies, dans la vie de notre Église, de nos Églises, souvent il y a des périodes où nous nous disons, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu as permis cette situation? Pourquoi tu as permis cette épreuve? Pourquoi on devait passer par là? Et le plus souvent, c'est que nous étions trop confiants en nous-mêmes. Et le Seigneur a dû nous humilier pour que nous revenions compter à nouveau sur lui. Dieu, est-ce que j'ose dire hélas, considère qu'il peut bien se passer de nos conseils. Deuxième chose pour prendre la bonne décision, c'est de discerner la volonté de Dieu. Parce que ce que nous voulons en premier, même si nous n'aimons pas l'admettre, c'est notre propre volonté. Et elle n'est pas toujours synonyme de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons tout comprendre avec notre propre intelligence, mais les voies de Dieu souvent sont mystérieuses et nous dépassent. Romains 12, 2 nous dit, « Ne prenez pas comme un modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » L'intelligence, oui, mais une intelligence renouvelée, pas simplement la nôtre. Il ne faut pas croire que Dieu est nécessairement cartésien comme nous. Parce que pour le cas où vous ne sachiez pas, Dieu existait bien avant Descartes. Voilà une révélation, n'est-ce pas? Et sa logique à lui n'est pas notre logique à nous. Notre raisonnement vise à expliquer le monde dans lequel nous vivons, mais en oubliant le combat spirituel qui est néanmoins réel. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, de Corinthiens 10. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener captive à Christ. De Corinthiens 10, 3 et 4. Satan cherche à nous éloigner de la volonté de Dieu. Il veut que nous utilisions simplement notre propre intelligence. Mais nous devons amener toute pensée captive à Christ, reconnaître que c'est sa volonté, sa parole qui sera toujours la meilleure, la bonne. Le seul moyen est d'accorder la priorité à la parole de Dieu plutôt qu'à notre propre intelligence. La volonté de Dieu n'est pas la plus confortable. Nous risquons de nous chercher des excuses pour ne pas nous lancer. Depuis bientôt un an, je fais 15 km de vélo d'appartement par jour. Je n'ai pas beaucoup d'espoir d'être aussi musclé que Sylvain, mais bon, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Donc, mais chaque fois que je démarre sur le vélo, donc, il me faut, pour mes 15 km, il me faut 42 minutes et 23 secondes. Après 4 minutes, je suis en train de dire, n'oublie pas que tu es un petit peu malade, il ne faudrait peut-être pas faire autant. N'oublie pas tout ce que tu as à faire aujourd'hui, peut-être il faudrait arrêter après 5 minutes. On trouve toujours des excuses, n'est-ce pas? Mais il faut décider que même si ce n'est pas confortable, ça en vaut la peine. Vous savez, mon premier but en faisant le vélo, c'était de perdre du poids. Je dis, 42 minutes, 24 secondes par jour pour perdre du poids. Un mois, deux mois, trois mois, j'avais pris un kilo. Mais aujourd'hui, j'en ai perdu 6. Il faut de l'effort. Il faut de la discipline pour persévérer. Ce n'est pas confortable. Et dans ce que Dieu nous donne à faire aussi, ce ne sera pas nécessairement confortable. On parlait d'être des témoins. Ça, ce n'est pas confortable non plus. Mais Dieu nous appelle à parler pour lui. Dieu nous appelle à trouver des situations, à trouver des manières de faire, des ponts pour créer des contacts avec d'autres, pour pouvoir parler de son amour pour nous. Mais ce n'est pas quelque chose que nous risquons de dire, « Oh, super, je vais évangéliser aujourd'hui. » Quand je me suis converti, j'ai su qu'il fallait évangéliser, donc j'habitais Londres, et tous les samedis matins, je prenais un paquet de 100 traités et j'allais jusqu'au métro et je distribuais mes traités. Le moment le plus beau de ma journée, c'était quand j'avais lâché la 100e traité. Ah, ouf, j'ai fait mon devoir, je peux rentrer à la maison. Ce n'est pas confortable. Et je ne dis pas que c'est la manière qu'il faut pour vous pour évangéliser. Trouve chacun le moyen que Dieu veut pour nous. Mais la volonté de Dieu en premier. Et en dernier, il faut choisir délibérément la confiance en Dieu. Nous avons lu tout à l'heure qu'il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez résister, pour que vous puissiez tenir bon, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, malgré toutes les épreuves, malgré tous les découragements, parce qu'il sera fidèle. Sauf que si vous abandonnez, vous ne verrez pas la fidélité de Dieu s'accomplir. Dans le cas de David, il se met en route avec 600 hommes, 200 s'arrêtent, trop fatigués. C'est un jeune esclave qui le conduit jusqu'à l'endroit où sont les femmes et les enfants, et il les libère tous. Il n'en manque aucun. En rang 37, on voulait priver les militaires fatigués de partager le butin. Mais David les en a fait profiter à part égale. Il en a envoyé même à d'autres responsables de Juda. Dieu a changé la catastrophe en bénédiction. Et il veut en faire de même pour toi et pour moi. Ce ne sera peut-être pas facile, mais Dieu sera fidèle. Et Christophe a son permis de conduire pour le prouver. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Quand tout s'écroule autour de nous, quand toutes les issues semblent bouchées, Dieu nous invite à croire quand même, à espérer contre toute espérance, à nous appuyer sur sa promesse que le meilleur est devant nous. Tout dépend de notre choix. À certains, on pourrait donner un champ entier de roses et ils ne verraient que les épines. À d'autres, on pourrait donner une mauvaise herbe. Ils ne verront que la fleur au milieu. Notre perception est un élément clé qui peut aboutir au désespoir ou à la gratitude, la joie et la victoire. Et cela peut se passer dans l'espace de quelques instants. Qu'en sera-t-il de la situation impossible que vous vivez? Comment allez-vous réagir? Par l'abandon? Non. Par la révolution? J'espère que non. Non. Par la confiance. Oui, parce que Dieu est à nos côtés pour que nous soyons, pour que nous finissions vainqueurs.